Chapitre 2. Eh bien, mon ami, je suis rentré à la maison. Je n'ai pas été au Cathay, à Cachemire, ni à Samarcande. Mais il est juste de dire que je n'ai pas plus de maîtresse que jamais. Je m'étais pourtant pris la main moi-même et juré mon grand jurement que j'irais au bout du monde. Je n'ai pas été seulement au bout de la ville. Je ne sais comment je m'y prends. Je n'ai jamais pu tenir parole à personne, pas même à moi. Il faut que le diable s'en mêle. Si je dis « j'irai là demain », il est sûr que je resterai. Et si je me propose d'aller au cabaret, je vais à l'église. Si je veux aller à l'église, les chemins s'embrouillent sous mes pieds comme des échevaux de fil et je me trouve dans un endroit tout différent. Le jeûne, quand j'ai l'idée de faire une orgie et ainsi de suite. Aussi, je crois que ce qui m'empêche d'avoir une maîtresse, c'est que j'ai résolu d'en avoir une. Il faut que je te raconte mon expédition de point en point. Cela vaut bien les honneurs de la narration. J'avais passé ce jour-là 2 grandes heures au moins à ma toilette. J'avais tant peigné, frisé mes cheveux, retroussé et ciré le peu que j'ai de moustache, et l'émotion du désir animant un peu la valeur ordinaire de ma visive, je m'étais réellement pas trop mal. Enfin, après m'être attentivement regardé au miroir sous des jours différents pour voir si j'étais assez beau et si j'avais la mine assez galante, je suis sorti résolument de la maison. Le front haut, le menton relevé, le regard direct, une main sur la hanche, faisant sonner les talons de mes bottes comme un danse-pessade, coudoyant les bourgeois et ayant l'air parfaitement vainqueur et triomphable. J'étais comme un autre Jason allant à la conquête de la toison d'or. Mais hélas, ce Jason a été plus heureux que moi. Outre la conquête de la toison, il a fait en même temps la conquête d'une belle princesse. Et moi, je n'ai ni princesse, ni toison. Je m'en allais donc par les rues, avisant toutes les femmes, et courant à elles et les regardant au plus près, quand elles me semblaient valoir la peine d'être examinées. Les unes prenaient leur grand air vertueux et passaient sans lever l'œil. Les autres s'étonnaient d'abord et puis souriaient, quand elles avaient les dents belles. Quelques-unes se retournaient au bout de quelque temps pour me voir lorsqu'elles croyaient que je ne les regardais plus et rougissaient comme des cerises en se trouvant nez à nez avec moi. Le temps était beau, il y avait foule à la promenade. Cependant, je dois l'avouer, malgré tout le respect que je porte à cette intéressante moitié du genre humain, ce qu'on est convenu d'appeler le beau sexe est diablement laid. Sur 100 femmes, il y en avait à peine une de passable. Celle-ci avait de la moustache, celle-là avait le nez bleu, d'autres avaient des taches rouges en place de sourcils. Une n'était pas mal faite, mais elle avait le visage couperosé. La tête d'une seconde était charmante, mais elle pouvait se gratter l'oreille avec l'épaule. La troisième eût fait honte à Praxitèle pour la rondeur et le moelleux de certains contours, mais elle patinait sur des pieds pareils à des étriers turcs. Une autre faisait montre des plus magnifiques épaules qu'on pût voir. En revanche, ses mains ressemblaient, pour la forme et la dimension, à ces énormes gants écarlates qui servent d'enseigne aux mercières. Et en général, que de fatigue sur ces figures! Comme elles sont flétries, étiolées, usées ignoblement par de petites passions et de petits vices. Quelle expression d'envie, de curiosité méchante, d'avidité, de coquetterie effrontée. Et qu'une femme qui n'est pas belle est plus laide qu'un homme qui n'est pas beau. Je n'ai rien vu de bien, excepté quelques grisettes, mais il y en a plus de toile à chiffonner que de soir, et ce n'est pas mon affaire. En vérité, je crois que l'homme, et par l'homme j'entends aussi la femme, est le plus vilain animal qui soit sur la terre. Ce quadrupède qui marche sur ses pieds le derrière me paraît singulièrement présomptueux de se donner de son plein droit le premier rang dans la création. Un lion, un tigre sont plus beaux que les hommes. Et dans leur espèce, beaucoup d'individus atteignent à toute la beauté qui leur est propre. Cela est extrêmement rare chez l'homme. Que d'Avorton pour un Antinous, que de Goton pour une Phyllis. J'ai bien peur, mon cher ami, de ne pouvoir jamais embrasser mon idéal. Cependant, il n'a rien d'extravagant et de hors nature. Ce n'est pas l'idéal d'un écolier de troisième. Je ne demande ni des globes d'ivoire, ni des colonnes d'albâtre, ni des réseaux d'azur. Je n'ai employé dans sa composition ni lys, ni neige, ni rose, ni jais, ni ébène, ni corail, ni ambroisie, ni perles, ni diamants. J'ai laissé les étoiles du ciel en repos, et je n'ai pas décroché le soleil hors de saison. C'est un idéal presque bourgeois tant il est simple. Il me semble qu'avec un sac ou deux de piastres, je le trouverai tout fait, tout réalisé dans le premier bazar venu de Constantinople ou de Smyrne. Il me coûterait probablement moins qu'un cheval ou qu'un chien de race. Et dire que je n'arriverai pas à cela, car je sens que je n'y arriverai pas. Il y a de quoi en enrager, et j'entre contre le sort dans les plus belles colères du monde. Toi, tu n'es pas aussi fou que moi, tu es heureux, toi. Tu t'es laissé aller tout bonnement à la vie, sans te tourmenter à l'affaire. Et tu as pris les choses comme elles se présentaient. Tu n'as pas cherché le bonheur, il est venu te chercher. Tu es aimé et tu aimes. Je ne t'envie pas, on ne va pas croire cela au moins, mais je me trouve moins joyeux en pensant à ta félicité que je le devrais l'être, et je me dis en soupirant que je voudrais bien jouir d'une félicité pareille. Peut-être mon bonheur a-t-il passé à côté de moi. Je ne l'aurais pas vu, aveugle que j'étais. Peut-être la voix a-t-elle parlé et le bruit de mes tempêtes m'aura empêché de l'entendre. Peut-être ai-je été aimé obscurément par un humble cœur que j'aurais méconnu ou brisé. Peut-être ai-je été moi-même l'idéal d'un autre, le pôle d'une âme en souffrance, le rêve d'une nuit et la pensée d'un jour. Si j'avais regardé à mes pieds, peut-être y aurais-je vu quelque belle Madeleine avec son urne de parfum et sa chevelure éplorée. J'allais, levant les bras au ciel, désireux de cueillir les étoiles qui me fuyaient et dédaignant de ramasser la petite pâquerette qui m'ouvrait son cœur d'or dans la rosée et le gazon. J'ai commis une grande faute. J'ai demandé à l'amour autre chose que l'amour et ce qu'il ne pouvait pas donner. J'ai oublié que l'amour était nu, je n'ai pas compris le sens de ce magnifique symbole. Je lui ai demandé des robes de brocart, des plumes, des diamants, un esprit sublime, la science, la poésie, la beauté, la jeunesse, la puissance suprême, tout ce qui n'est pas lui. L'amour ne peut offrir que lui-même. Et qui en veut tirer autre chose n'est pas digne d'être aimé. Je me suis sans doute trop hâté, mon heure n'est pas venue. Dieu qui m'a prêté la vie ne me la reprendra pas sans que j'aie vécu. À quoi bon donner au poète une lyre sans corde, à l'âme une vie sans amour? Dieu ne peut pas commettre une pareille inconséquence. Et sans doute, au moment voulu, il mettra sur mon chemin celle que je dois aimer et dont je dois être aimé. Mais pourquoi l'amour m'est-il venu avant la maîtresse? Pourquoi ai-je soif sans avoir de fontaine ou m'étancher? Ou pourquoi ne sais-je pas voler, comme ces oiseaux du désert, à l'endroit où est l'eau? Le monde est pour moi un Sahara sans puits et sans dattiers. Je n'ai pas dans ma vie un seul coin d'ombre où m'abriter du soleil. Je souffre toutes les ardeurs de la passion sans en avoir les extases et les délices ineffables. J'en connais les tourments, mais n'en ai pas les plaisirs. Je suis jaloux de ce qui n'existe pas. Je m'inquiète pour l'ombre d'une ombre. Je pousse des soupirs qui n'ont point de but. J'ai des insomnies que ne vient pas embellir un fantôme adoré. Je verse des larmes qui coulent jusqu'à terre sans être essuyées. Je donne au vent des baisers qui ne me sont point rendus. J'use mes yeux à vouloir saisir dans le lointain une forme incertaine et trompeuse. J'attends ce qui ne doit point venir, et je compte les heures avec anxiété, comme si j'avais un rendez-vous. Qui que tu sois, ange ou démon, vierge ou courtisane, bergère ou princesse, que tu viennes du nord ou du midi, toi que je ne connais pas et que j'aime, oh, ne te fais pas attendre plus longtemps, ou la flamme brûlera l'autel et tu ne trouveras plus à la place de mon cœur qu'un morceau de cendre froide. Descends de la sphère où tu es, quitte le ciel de cristal, esprit consolateur, et viens jeter sur mon âme l'ombre de tes grandes ailes. Toi, femme que j'aimerais, viens, que je ferme sur toi mes bras ouverts depuis si longtemps. Porte d'or du palais qu'elle habite, roulez-vous sur vos gonds, humble loquet de sa cabane, lève-toi. Rameau des bois, ronce des chemins, décroisez-vous, enchantement de la tourelle, charme des magiciens, soyez rompus. Ouvrez-vous, rang de la foule, et la laissez passer. Si tu viens trop tard, ô mon idéal, je n'aurai plus la force de t'aimer. Mon âme est comme un colombier tout plein de colombes. À toute heure du jour, il s'en envole quelques désirs. Les colombes reviennent au colombier, mais les désirs ne reviennent point au cœur. L'azur du ciel blanchit sous leurs innombrables essaims. Ils s'en vont à travers l'espace, de monde en monde, de ciel en ciel, chercher quelque amour pour s'y poser et y passer la nuit. Presse le pas, ô mon rêve, où tu ne trouveras plus dans le nid vide que les coquilles des oiseaux envolés. Mon ami, mon compagnon d'enfance, tu es le seul à qui je puisse compter de pareilles choses. Écris-moi que tu me plains et que tu ne me trouves pas hypochondriaque. Console-moi, j'en ai jamais eu plus besoin. Que ceux qui ont une passion qu'ils peuvent satisfaire sont dignes d'envie. L'ivrogne ne rencontre de cruauté dans aucune bouteille. Il tombe du cabaret au ruisseau et se trouve plus heureux sur son tas d'ordures qu'un roi sur son trône. Le sensuel va chez les courtisanes chercher de faciles amours ou des raffinements impudiques. Une joue fardée, une jupe courte, une gorge débraillée, un propos libertin, il est heureux. Son œil blanchit, sa lèvre se trempe, il atteint au dernier degré de son bonheur, il a l'extase de sa grossière volupté. Le joueur n'a besoin que d'un tapis vert et d'un jeu de cartes gras et usé pour se procurer les angoisses poignantes, les spasmes nerveux et les diaboliques jouissances de son horrible passion. Ces gens-là peuvent s'assouvir ou se distraire. Moi, cela m'est impossible. Cette idée s'est tellement emparée de moi que je n'aime presque plus les arts et que la poésie n'a plus pour moi aucun charme. Ce qui me ravissait d'autrefois ne me fait pas la moindre impression. Je commence à le croire. Je suis dans mon tort, je demande à la nature et à la société plus qu'elles ne peuvent donner. Ce que je cherche n'existe point, et je ne dois pas me plaindre de ne pas le trouver. Cependant, si la femme que nous rêvons n'est pas dans les conditions de la nature humaine, qui fait donc que nous n'aimons que celle-là et point les autres, puisque nous sommes des hommes et que notre instinct devrait nous y porter d'une invincible manière ? Qui nous a donné l'idée de cette femme imaginaire ? De quelle argile avons-nous pétri cette statue invisible ? Où avons-nous pris les plumes que nous avons attachées au dos de cette chimère ? Quel oiseau mystique a déposé dans un coin obscur de notre âme l'œuf inaperçu dont notre rêve est éclos ? Quelle est donc cette beauté abstraite que nous sentons et que nous ne pouvons définir? Pourquoi, devant une femme souvent charmante, disons-nous quelquefois qu'elle est belle, tandis que nous la trouvons fort laide? Où est donc le modèle, le type, le patron intérieur qui nous sert de point de comparaison? Car la beauté n'est pas une idée absolue et ne peut s'apprécier que par le contraste. Est-ce au ciel que nous l'avons vue, dans une étoile, au bal, à l'ombre d'une mer, frais bouton d'une rose effeuillée? Est-ce en Italie ou en Espagne? Est-ce ici ou là-bas, hier ou il y a longtemps? Était-ce la courtisane adorée, la cantatrice en vogue, la fille du prince? Une tête fière et noble, ployant sous un lourd diadème de perles et de rubis? Un visage jeune et enfantin se penchant entre les capucines et les volubilis de la fenêtre? À quelle école appartenait le tableau où cette beauté ressortait blanche et rayonnante au milieu des noires ombres? Est-ce Raphaël qui a caressé le contour qui vous plaît? Est-ce Cléomène qui a poli le marbre que vous adorez? Êtes-vous amoureux d'une Madone ou d'une Diane? Votre idéal est-il un ange, une sylphide ou une femme? Hélas, c'est un peu de tout cela, et ce n'est pas cela. Cette transparence de ton, cette fraîcheur charmante et pleine d'éclat, ces chairs où courent tant de sang et tant de vie, ces belles chevelures blondes se déroulant comme des manteaux d'or, ces rires étincelants, ces fossettes amoureuses, ces formes ondoyantes comme des flammes, cette force, cette souplesse, ces luisants de satin, ces lignes si bien nourries, ces bras potelés, ces dos charnus et polis, toute cette belle santé appartient à Rubens. Raphaël, lui seul, a pu remplir de cette couleur d'ambre pâle un aussi chaste linéament. Quel autre que lui a courbé ses longs cils, si fins et si noirs, et effiler les franges de ses paupières si modestement baissées? Croyez-vous qu'Allegri ne soit pas pour rien dans votre idéal? C'est à lui que la dame de vos pensées a volé cette blancheur mate et chaude qui vous ravit. Elle s'est arrêtée bien longtemps devant ses toiles pour surprendre le secret de cet angélique sourire toujours épanoui. Elle a modelé l'ovale de son visage sur l'ovale d'une nymphe ou d'une sainte. Cette ligne de la hanche qui serpente si voluptueusement est de l'Antiope endormie. Ses mains grasses et fines peuvent être réclamées par Danaé ou Madeleine. La poudreuse antiquité elle-même a fourni bien des matériaux pour la composition de votre jeune chimère. Ces reins souples et forts que vous enlacez de vos bras avec tant de passion ont été sculptés par Praxitèle. Cette divinité a laissé tout exprès passer le petit bout de son pied charmant hors des cendres d'Herculanum, pour que votre idole ne fût pas boiteuse. La nature a aussi contribué pour sa part. Vous avez vu au prisme du désir, çà et là, un bel œil sous une jalousie, un front d'ivoire appuyé contre une vitre, une bouche souriant derrière un éventail. Vous avez deviné un bras d'après la main, un genou d'après une cheville. Ce que vous voyiez était parfait. Vous supposiez le reste comme ce que vous voyiez, et vous l'acheviez avec les morceaux d'autres beautés enlevées ailleurs. La beauté idéale réalisée par les peintres ne vous a pas même suffi et vous êtes allé demander aux poètes des contours encore plus arrondis, des formes plus éthérées, des grâces plus divines, des recherches plus exquises. Vous les aviez priés de donner le souffle et la parole à votre fantôme, tout leur amour, toute leur rêverie, toute leur joie et leur tristesse, leur mélancolie et leur morbidesse, tous les souvenirs et toutes leurs espérances, leur science et leur passion, leur esprit et leur cœur. Vous leur avez pris tout cela et vous avez ajouté, pour mettre le comble à l'impossible, votre passion à vous, votre esprit à vous, votre rêve et votre pensée. L'étoile a prêté son rayon, la fleur son parfum, la palette sa couleur, le poète son harmonie, le marbre sa forme, et vous, votre désir. Le moyen qu'une femme réelle, mangeant et buvant, se levant le matin et se couchant le soir, si adorable et si pétrie de grâce qu'elle soit d'ailleurs, puisse soutenir la comparaison avec une pareille créature, on ne peut raisonnablement l'espérer. Et cependant, on l'espère, on cherche. Quel singulier aveuglement! Cela est sublime ou absurde. Que je plains et que j'admire ceux qui poursuivent à travers toute la réalité de leurs rêves et qui meurent contents, pourvu qu'ils aient baisé une fois leur chimère à la bouche. Mais quel sort affreux que celui des colons qui n'ont pas trouvé leur monde et des amants qui n'ont pas trouvé leur maîtresse. Ah, si j'étais poète, c'est à eux dont l'existence est manquée, dont les flèches n'ont pas été au but, qui sont morts avec le mot qu'ils avaient à dire et sans presser la main qui leur était destinée. C'est à tout ce qui a avorté et à tout ce qui a passé sans être aperçu, au feu étouffé, au génie sans issue, à la perle inconnue au fond des mers, à tout ce qui a aimé sans être aimé, à tout ce qui a souffert et que l'on n'a pas plaint, que je consacrerai mes chants. Ce serait une noble tâche. Que Platon avait raison de vouloir vous bannir de sa république, et quel mal vous nous avez fait, ô poète! Que votre ambroisie nous a rendu notre absinthe encore plus amère! Et comme nous avons trouvé notre vie encore plus aride et plus dévastée après avoir plongé nos yeux dans les perspectives que vous nous ouvrez à l'infini, que vos rêves ont amené une lutte terrible contre nos réalités, et comme, durant le combat, notre cœur a été piétiné et foulé par ces rudes athlètes, nous nous sommes assis comme Adam au pied des murs du paradis terrestre, sur les marches de l'escalier qui mène au monde que vous avez créé, voyant étinceler à travers les fentes de la porte une lumière plus vive que le soleil, entendant confusément quelques notes éparses d'une harmonie séraphique. Toutes les fois qu'un élu entre ou sort au milieu d'un flot de splendeur, nous tendons le cou pour tâcher de voir quelque chose par le battant ouvert. C'est une architecture féerique qui n'a son égal que dans les contes arabes. Des entassements de colonnes, des arcades superposées, des piliers tordus en spirale, des feuillages merveilleusement découpés, des trèfles évidés, du porphyre, du jaspe, du lapis-lazuli, que sais-je, moi ? Des transparences et des reflets éblouissants, des profusions de pierreries étranges, des sardoines, du chrysobéryl, des aigues marines, des opales irisées, de l'azérodrague, des jets de cristal, des flambeaux à faire pâlir les étoiles, une vapeur splendide pleine de bruit et de vertige, un luxe tout assyrien. Et le battant retombe, vous ne voyez plus rien, et vos yeux se baissent, pleins de larmes corrosives, sur cette pauvre terre décharnée et pâle, sur ces masures en ruine, sur ce peuple en haillons, sur votre âme, rocher aride où rien ne germe, sur toutes les misères et toutes les infortunes de la réalité. Ah, du moins, si nous pouvions voler jusque-là, si les degrés de cet escalier de feu ne nous brûlaient pas les pieds. Mais hélas, l'échelle de Jacob ne peut être monté que par les anges. Quel sort que celui du pauvre à la porte du riche! Quelle ironie sanglante qu'un palais en face d'une cabane, que l'idéal en face du réel, que la poésie en face de la prose! Quelle haine enracinée doit tordre les nœuds au fond du cœur des misérables! Quel grincement de dents doivent retentir la nuit sur leurs grabats, tandis que le vent apporte jusqu'à leur oreille les soupirs des théorbes et des violes d'amour. Poète, peintre, sculpteur, musicien, mais pourquoi nous avez-vous menti? Poète, pourquoi nous avez-vous raconté vos rêves? Peintre, pourquoi avez-vous fixé sur la toile ce fantôme insaisissable qui montait et descendait de votre cœur à votre tête avec les bouillons de votre sang? Et nous avez-vous dit « Ceci est une femme ?» Sculpteur, pourquoi avez-vous tiré le marbre des profondeurs de Carrare pour lui faire exprimer éternellement et aux yeux de tous votre plus secret et plus fugitif désir? Musicien, pourquoi avez-vous écouté pendant la nuit le chant des étoiles et des fleurs et l'avez-vous noté? Pourquoi avez-vous fait de si belles chansons que la voix la plus douce qui nous dit « Je t'aime » nous paraît rauque comme le grincement d'une scie ou le croassement d'un corbeau? Soyez maudit, imposteur, et puisse le feu du ciel brûler et détruire tous les tableaux, tous les poèmes, toutes les statues et toutes les partitions. Ouf, oh, voilà une tirade d'une longueur interminable et qui sort un peu du style épistolaire. Quelle tartine! Je me suis joliment laissé aller au lyrisme, mon très cher ami. Et voilà déjà bien du temps que je panarise assez ridiculement. Tout ceci est fort loin de notre sujet, qui est, si je m'en souviens bien, l'histoire glorieuse et triomphante du chevalier d'Albert au pourchoir de la Raïde, la plus belle princesse du monde, comme disent les vieux romans. Mais en vérité, l'histoire est si pauvre que je suis forcé d'avoir recours aux digressions et aux réflexions. J'espère qu'il n'en sera pas toujours ainsi, et qu'avant peu, le roman de ma vie sera plus entortillé et plus compliqué qu'un imbroglio espagnol. Après avoir erré de rue en rue, je me décidai à aller trouver un de mes amis qui devait me présenter dans une maison où, à ce qu'il m'a dit, on voyait un monde de jolies femmes. Une collection d'idées littéraires, de quoi satisfaire une vingtaine de poètes. Il y en a pour tous les goûts, des beautés aristocratiques avec des regards d'aigle, des yeux verts de mer, des nez droits, des manteaux orgueilleusement relevés, des mains royales et des démarches de déesse, des lys d'argent montés sur des tiges d'or, de simples violettes aux pâles couleurs, aux doux parfums, œil humide et baissé, cou frêle, chair diaphane, des beautés vives et piquantes, des beautés précieuses, des beautés de tous les genres, car c'est un vrai sérail que cette maison-là, moins les eunuques et le Kiziaraga. Mon ami me dit qu'il y a déjà fait 5 ou 6 passions tout autant. Cela me paraît extrêmement prodigieux, j'ai bien peur de ne pas avoir un pareil succès. De C prétend que si et que je réussirai bien plutôt plus que je ne le voudrais. Je n'ai, suivant lui, qu'un défaut dont je me corrigerai avec l'âge et en prenant du monde, c'est de faire trop de cas de la femme et pas assez des femmes. Il pourrait bien y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Il dit que je serai parfaitement aimable quand je me serai défait de ce petit travers. Dieu le veuille, il faut que les femmes sentent que je les méprise, car un compliment qu'elles trouveraient adorable et du dernier charme dans la bouche d'un autre les met en colère et leur déplaît dans la mienne, autant que l'épigramme la plus sanglante. Cela tient probablement à ce que De C me reproche. Alors, le cœur me battait un peu en montant l'escalier, mais j'étais à peine remis de mon émotion que De C, me poussant par le coude, me mit face à face avec une femme d'une 30aine d'années environ, assez belle, parée avec un luxe sourd et une prétention extrême de simplicité enfantine, ce qui ne l'empêchait pas d'être plaquée de rouge comme une roue de carrosse. C'était la dame du lieu. De C, prenant cette voix grêle et moqueuse, si différente de sa voix habituelle, et dont il se sert dans le monde quand il veut faire le charmant, lui dit avec force démonstration de respect ironique, où perçait visiblement le plus profond mépris, moitié bas, moitié haut. « C'est ce jeune homme dont je vous ai parlé l'autre jour, un homme d'un mérite très distingué. Il est on ne peut mieux né, et je pense qu'il ne pourra que vous être agréable de le recevoir. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de vous le présenter. »« Assurément, monsieur, vous avez très bien fait, » répliqua la dame, en minaudant de la manière la plus outrée. Puis elle se retourna vers moi, et après m'avoir détaillé du coin de l'œil en connaisseuse habile, et d'une façon qui me fit rougir par-dessus les oreilles. « Vous pouvez vous regarder comme invité une fois pour toutes, et venir aussi souvent que vous aurez une soirée à perdre. » Je m'inclinai assez gauchement et balbutiai quelques mots sans suite qui ne durent pas lui donner une haute idée de mes moyens. D'autres personnes entrèrent, ce qui me délivra des ennuis inséparables de la présentation. Dessé me tira dans un coin de fenêtre et se mit à me sermonner d'importance. « Hey, que diable, tu vas me compromettre. Je t'ai annoncé comme un phénix d'esprit, un homme à imagination effrénée, un poète lyrique, tout ce qu'il y a de plus transcendant et le plus passionné, et tu restes là comme une souche sans sonner mot. Quelle pauvre imagination! Je te croyais la veine plus féconde. » « Allons donc, lâche la bride à ta langue, babille à travers et à tort. Tu n'as pas besoin de dire des choses sensées et judicieuses au contraire. Cela pourrait être visible. Parle, voilà l'essentiel. Parle beaucoup, parle longtemps. Attire l'attention sur toi. Jette-moi de côté toute crainte et toute modestie. Mets-toi bien dans la tête que tous ceux qui sont ici sont des sots, à peu près. Et n'oublie pas qu'un orateur qui veut réussir ne peut mépriser assez son auditoire. Que te semble de la maîtresse de la maison? Elle me déplaît déjà considérablement, et quoique je lui ai parlé à peine 3 minutes, je m'ennuyais autant que si j'eusse été son mari. Ah, voilà ce que tu en penses. Mais oui. Ta répugnance pour elle est donc tout à fait insurmontable. Tant pis. Il aurait été décent pour toi de la voir, ne fût-ce qu'à moi, cela est du bon air, et un jeune homme un peu bien ne peut être mis dans le monde que par elle. Eh bien, je l'aurai, fis-je d'un air assez piteux, puisqu'il le faut. Mais cela est-il aussi nécessaire que tu as l'air de le croire? Ah, hélas, oui, cela est du dernier indispensable, et je m'en vais t'en expliquer les raisons. Madame de Thémines est à la mode maintenant. Elle a tous les ridicules du jour d'une manière supérieure, quelquefois ceux de demain, mais jamais ceux d'hier. Elle est parfaitement au courant. On portera ce qu'elle porte et elle ne porte pas ce qu'on a porté. Elle est riche d'ailleurs et ses équipages sont du meilleur goût. Elle n'a pas d'esprit, mais beaucoup de jargon. Elle a des goûts fort vifs et peu de passion. On lui plaît, mais on ne la touche pas. C'est un cœur froid, une tête libertine. Quant à son âme, si elle en a une, ce qui est douteux, elle est plus noire et il n'y a pas de méchanceté, de bassesse dont elle ne soit capable. Mais elle est extrêmement adroite et conserve les dehors juste ce qu'il est nécessaire pour qu'on ne puisse rien prouver contre elle. Ainsi, elle couchera très bien avec un homme et ne lui écrira pas le billet le plus simple. Aussi, ses ennemis les plus intimes ne trouveraient rien à dire sur elle, sinon qu'elle met son rouge trop haut et que certaines portions de sa personne n'ont pas en vérité toute la rondeur qu'elles paraissent avoir, ce qui est faux. Comment le sais-tu? La question est bonne. Comment sais-je ces sortes de choses? En m'en assurant par moi-même. As-tu donc eu aussi, Madame de Thémines? Certainement. Mais pourquoi donc ne l'aurais-je pas eu? Il eût été de la dernière inconvenance que je ne l'eusse pas. Elle m'a rendu de grands services et je lui en suis fort reconnaissant. Mais je ne comprends pas le genre de service qu'elle peut avoir rendu. Serais-tu réellement un sot? Me dit alors de C en me regardant avec la mine la plus comique du monde. Ma foi, j'en ai bien peur. Et faut-il donc tout te dire? Madame de Thémines passe, et à juste titre, pour avoir des lumières spéciales à de certains endroits. Et un jeune homme qu'elle a pris et gardé pendant quelque temps peut hardiment se présenter partout et être sûr qu'il ne restera pas longtemps sans avoir une affaire et deux plutôt qu'une. Outre cet ineffable avantage, il y en a un autre qui n'est pas moindre. C'est que dès que les femmes de cette société te verront l'amant en titre de Madame de Thémines, n'eussent-elles pas le plus léger goût pour toi, elles se feront un plaisir et un devoir de t'enlever à une femme à la mode comme est celle-ci. Et au lieu des avances et des démarches que tu aurais à faire, tu n'auras que l'embarras du choix, et tu deviendras nécessairement le point de mire de toutes les agaceries, de toutes les minauderies possibles. Oh, cependant, si elle t'inspire une répugnance trop forte, non, ne la prends pas. Tu n'y es pas précisément obligé, que cela eût été dans la politesse et les convenances. Mais fais vite un choix, et attaque-toi à celle qui te plaira le mieux, ou qui semblera offrir le plus de facilité, car tu perdrais, en différant, le bénéfice de la nouveauté et l'avantage qu'elle te donne pendant quelques jours sur tous les cavaliers qui sont ici. Toutes ces dames ne conçoivent rien à ces passions qui naissent dans l'intimité et se développent lentement dans le respect, dans le silence. Elles sont pour les coups de foudre, les sympathies occultes, chose merveilleusement bien imaginée pour épargner les ennuis de la résistance et toutes ces longueurs et ces redites que le sentiment entremêle au roman de l'amour et qui ne font qu'en déférer inutilement la conclusion. Ces dames sont très économes de leur temps, et il leur paraît tellement précieux qu'elles seraient au désespoir d'en laisser une seule minute inemployée. Elles ont une envie d'obliger le genre humain qu'on ne saurait trop louer, et elles aiment leur prochain comme elles-mêmes, ce qui est parfaitement évangélique et méritoire. Ce sont de très charitables créatures qui ne voudraient pour rien au monde faire mourir un homme de désespoir. Il doit déjà y en avoir 3 ou 4 de frappés en ta faveur, et je te conseillerais amicalement de pousser ta pointe avec vivacité de ce côté-là, au lieu de t'amuser à bavarder avec moi dans l'embrasure d'une fenêtre, ce qui ne t'avancera pas à grand-chose. Mais, mon cher C, je suis tout à fait neuf sur ces matières-là. Je n'ai point ce qu'il faut du monde pour distinguer au premier coup d'œil une femme frappée avec une qui ne l'est point. Et je pourrais commettre d'étranges bévues si tu m'aidais de ton expérience. En vérité, tu es d'un primitif qui n'a pas de nom. Je ne croyais pas qu'il fût possible d'être aussi pastoral et aussi bucolique que cela dans le bienheureux siècle où nous sommes. Mais que diable fais-tu donc de cette grande paire d'yeux noirs que tu as là, et qui serait de l'effet le plus vainqueur si tu savais t'en servir? Regarde-moi là-bas un peu dans ce coin, auprès de la cheminée, cette petite femme en rose qui joue avec son éventail. Mais elle te lorgne depuis un quart d'heure, avec une assiduité et une fixité tout à fait significatives. Il n'y a qu'elle au monde pour être indécente d'une manière aussi supérieure et déployer une aussi noble effronterie. Elle déplaît beaucoup aux femmes qui désespèrent de parvenir jamais à cette hauteur d'impudence, mais en revanche, elle plaît beaucoup aux hommes, qui lui trouvent tout le piquant d'une courtisane. Or, il est vrai qu'elle est d'une dépravation charmante, pleine d'esprit, de verve et de caprice. C'est une excellente maîtresse pour un jeune homme qui a des préjugés. En 8 jours, elle vous débarrasse une conscience de 2 scrupules, et vous corrompt le cœur, de manière à ce que vous ne soyez jamais ridicule ni élégiaque. Elle a, sur toute chose, des idées d'un positif inexprimable. Elle va au fond de tout avec une rapidité et une sûreté qui étonnent. C'est l'algèbre incarnée que cette petite femme-là. C'est précisément ce qu'il faut à un rêveur et un enthousiaste. Elle t'aura bientôt corrigé de ton vaporeux idéalisme. C'est un grand service qu'elle te rendra. Elle te fera du reste avec le plus grand plaisir, car son instinct est de désenchanter les poètes. Ma curiosité étant éveillée par la description de C, je sortis de ma retraite et, me glissant entre les groupes, je m'approchai de la dame et je la regardai fort attentivement. Elle pouvait avoir 25 ou 26 ans. Sa taille était petite mais assez bien prise, quoiqu'un peu chargée d'embonpoint. Elle avait le bras blanc et potelé, la main assez noble, le pied joli et même trop mignon. Les épaules grasses et lustrées, peu de gorge, mais ce qu'il y avait fort satisfaisant et ne donnant pas mauvaise idée du reste. Pour les cheveux, ils étaient extrêmement brillants et d'un noir bleu comme des ailes de jais. Le coin de l'œil troussé assez haut vers la tempe, le nez mince et les narines fort ouvertes, la bouche humide et sensuelle, une petite raie à la lèvre inférieure et un duvet presque imperceptible aux commissures. Et dans tout cela, une vie, une animation, une santé, une force, et je ne sais quelle expression de luxe adroitement tempérée par la coquetterie et le manège qui en faisait en somme une très désirable créature et justifiait, et au-delà, les goûts très vifs qu'elle avait inspiré et qu'elle inspirait tous les jours. Je la désirais, mais je compris néanmoins que ce ne serait pas cette femme, tout agréable qu'elle fût, qui réaliserait mon rêve et me ferait dire « Enfin, j'ai eu une maîtresse !» Alors je revins à De C et je lui dis « La dame me plaît assez, je m'arrangerai peut-être avec elle. » Mais avant de rien dire de précis et qui m'engage, je voudrais bien que tu eusses la bonté de me faire voir celle des indulgents de beauté qui ont eu l'obligeance de se frapper pour moi, afin que je puisse choisir. Tu me ferais plaisir aussi, puisque tu me sers ici de démonstrateur, d'y ajouter une petite notice et la nomenclature de leurs défauts et qualités, la manière dont il faut les attaquer et le ton qu'on doit employer avec elle, pour que je n'aie pas trop l'air d'un provincial ou d'un littérateur. Oh, je veux bien, dit De C. Vois-tu ce beau signe mélancolique qui déploie son cou si harmonieusement et fait remuer ses manches comme des ailes? C'est la modestie même, tout ce qu'il y a de plus chaste et de plus virginal au monde. C'est un front de neige, un cœur de glace, des regards de Madone, un sourire d'Agnès. Elle a une robe blanche et l'âme pareille. Elle ne met dans ses cheveux que des fleurs d'oranger ou des feuilles de nénuphar et ne tient à la terre que par un fil. Elle n'a jamais eu une mauvaise pensée et ignore profondément en quoi un homme diffère d'une femme. La Sainte Vierge est une bacchante à côté d'elle, ce qui d'ailleurs ne l'empêche pas d'avoir eu plus d'amants qu'aucune femme que je connaisse. Et assurément, ce n'est pas peu dire. Examine-moi un peu la gorge de cette discrète personne. C'est un petit chef-d'œuvre. Et réellement, il est difficile de montrer autant en cachant davantage. Dis-moi si, avec toutes ses restrictions et toute sa pruderie, elle n'est pas 10 fois plus indécente que cette bonne dame qui est à sa gauche et qui étale bravement 2 hémisphères qui, s'ils étaient réunis, formeraient une map monde d'une grandeur naturelle, ou que cet autre qui est à sa droite, décolleté jusqu'au ventre, et qui fait parade de son néant avec une intrépidité charmante. Cette virginale créature, où je me trompe fort, a déjà supputé dans sa tête ce que les promesses de ta pâleur et de tes yeux noirs pouvaient tenir d'amour et de passion. Et ce qui me fait dire cela, c'est qu'elle n'a pas regardé une seule fois de ton côté, du moins en apparence, car elle sait faire jouer sa prunelle avec tant d'art et la faire couler si adroitement dans le coin de ses yeux que rien ne lui échappe. On croirait qu'elle y voit par le derrière de la tête, car elle sait parfaitement ce qui se passe derrière elle. C'est un Janus féminin. Si tu veux réussir auprès d'elle, il faut laisser là les manières débraillées et victorieuses. Il faut lui parler sans la regarder, sans faire de mouvement, dans une attitude contrite et d'un ton de voix étouffé et respectueux. De cette façon, tu pourras lui dire tout ce que tu voudras, pourvu que cela soit convenablement gazé, et elle te permettra des choses les plus libres en parole d'abord, et ensuite en action. Aie soin seulement de rouler tendrement les yeux quand elle aura les siens baissés, et parle-lui des douceurs de l'amour platonique et du commerce des âmes, tout en employant avec elle la pantomime la moins platonique et la moins idéale du monde. Elle est fort sensuelle et très susceptible. Embrasse-la tant que tu voudras, mais dans l'abandon le plus intime, n'oublie pas de l'appeler madame au moins 3 fois par phrase. Elle se brouille avec moi parce qu'étant couchée dans son lit, je lui ai dit je ne sais plus quoi en la tutoyant. Que diable, on n'est pas honnête femme pour rien. Je n'ai pas grande envie, d'après ce que tu me dis, de risquer l'aventure. Une messaline prude, l'alliance est monstrueuse et nouvelle. Vieille comme le monde, mon cher, cela se voit tous les jours et rien n'est plus commun. Tu as tort de ne pas te fixer à celle-là. Elle a un grand agrément, c'est qu'avec elle on a toujours l'air de commettre un péché mortel. Et le moindre baiser paraît tout à fait damnable, tandis qu'avec les autres, on croit à peine faire un péché véniel, et souvent même, on ne croit rien faire du tout. C'est la raison pourquoi je l'ai gardée plus longtemps qu'aucune maîtresse. Oh, je l'aurais encore si elle ne m'avait pas quitté elle-même. C'est la seule femme qui m'ait devancée, et je lui porte un certain respect à cause de cela. Elle a de petits raffinements de volupté, on ne peut plus délicat, et ce grand art de paraître se faire extorquer, ce qu'elle accorde très librement. Ce qui donne à chacune de ses faveurs le charme d'un viol. Tu trouveras dans le monde 10 de ses amants qui te jureront sur leur honneur que c'est la plus vertueuse créature qui soit. Elle est précisément le contraire. C'est une curieuse étude que d'anatomiser cette vertu-là sur un oreiller. Étant prévenu, tu ne cours aucun risque, et tu n'auras pas la maladresse d'en devenir sincèrement amoureux. Quel âge a donc cette adorable personne ? Demandai-je à De C, car il m'était impossible de le déterminer en l'examinant avec l'attention la plus scrupuleuse. Ah, voilà, quel âge a-t-elle ? Ah, c'est le mystère. Et Dieu seul le sait. Pour moi qui me pique d'assigner leur âge aux femmes à 1 minute près, je n'ai jamais pu trouver le sien. Seulement, d'une manière approximative, j'estime qu'elle peut avoir de 18 à 36 ans. Je l'ai vue en grande toilette, en déshabillée, sous le linge, et je ne puis rien apprendre à cet égard. Ma science est en défaut. L'âge qu'elle semble plus avoir, c'est 18 ans, et cependant, ce peut être son âge. C'est un corps de vierge et une âme de fille de joie. Et pour se corrompre aussi profondément et aussi spacieusement, il faut beaucoup de temps ou de génie. Il faut un cœur de bronze dans une poitrine d'acier. Elle n'a ni l'un ni l'autre. Alors, je pense qu'elle a 36 ans, mais au fond, je ne sais rien. Mais est-ce qu'elle n'a pas d'amis intimes qui te pourraient donner des lumières à ce sujet ? Non, elle est arrivée dans cette ville il y a 2 ans. Elle venait de la province ou de l'étranger, je ne sais plus lequel. C'est une admirable position pour une femme qui sait en profiter. Avec une figure comme elle en a une, elle peut se donner l'âge qu'elle veut et ne dater que du jour où elle est arrivée ici. Voilà qui est on ne peut plus agréable, surtout quand quelque ride impertinente ne vient pas vous démentir et que le temps, ce grand destructeur, a la bonté de se prêter à cette falsification de l'extrait de baptême. Il m'en fit voir encore quelques-unes qui, selon lui, recevraient favorablement toutes les requêtes qu'il me plairait de leur adresser et me traiteraient avec une philanthropie toute particulière. Mais la femme en rose du coin de la cheminée et la modeste colombe qui lui servait d'antithèse étaient incomparablement mieux que toutes les autres. Et si elles n'avaient pas toutes les qualités que je demande, elles en avaient quelques-unes, du moins en apparence. Je parlais toute la soirée avec elles, surtout avec la dernière, et j'eus soin de jeter mes idées dans le moule le plus respectueux. Quoiqu'elle me regardât à peine, je crus voir quelquefois luire ses prunelles sous leurs rideaux de cils, et à quelque galanterie assez vive, mais habillée de la gaze la plus pudique que je hasardais, passer à deux ou trois lignes sous sa chair une petite rougeur contenue et étouffée, assez pareille à celle que produit une liqueur rose versée dans une tasse à moitié opaque. Ses réponses en général étaient sobres, mesurées, mais pourtant aiguë et pleine de traits, et donnait à penser beaucoup plus qu'elle n'exprimait. Tout cela était entremêlé de réticences, de demi-mots, d'allusions détournées. Chaque syllabe avait son intention, chaque silence sa portée. Rien au monde n'était plus diplomatique et plus charmant. Et pourtant, quelque plaisir que j'y ai pris momentanément, je ne pourrais supporter longtemps une pareille conversation. Il faut être perpétuellement en éveil et sur ses gardes, et ce que j'aime le mieux dans une causerie, c'est l'abandon de la familiarité. Nous avons d'abord parlé de musique, ce qui nous a conduit tout naturellement à parler de l'opéra, et ensuite des femmes, puis de l'amour, sujet dans lequel il est plus facile que dans tout autre de trouver des transitions pour passer de la généralité à la spécialité. Nous avons fait du beau cœur à qui mieux mieux. Oh, tu aurais ri de m'entendre. En vérité, Amadis sur la roche pauvre n'était qu'un cuistre sans flamme auprès de moi. C'était des générosités, des abnégations, des dévouements à faire rougir de honte feu le Romain Curtius. Je me croyais sincèrement pas capable d'un galimatia et d'un pathos aussi transcendants. Moi, faisant du platonisme le plus quintessentié, cela ne te paraît-il pas une chose les plus bouffonnes, les meilleures scènes de comédie qui se puissent voir? Et puis cet air confit en perfection, ces petites façons paplardes et chatemites que je vous avais, tu Dieu! Je n'avais pas la mine d'y toucher, et toute mère qui m'aurait entendu raisonner n'aurait pas hésité à me laisser coucher avec sa fille. Tout mari m'aurait confié sa femme. C'est la soirée de ma vie où j'ai eu le plus l'air vertueux et où je l'ai été le moins. Je pensais qu'il fût plus difficile que cela d'être hypocrite et de dire des choses que l'on ne croyait point. Il faut que ce soit assez aisé ou que j'aie de fort belles dispositions pour avoir aussi agréablement réussi du premier coup. J'ai en vérité de fort beaux moments. Quant à la dame, elle a dit beaucoup de choses très finement détaillées et qui, malgré l'air de candeur qu'elle y mettait, prouvent une expérience des plus consommées. On ne peut se faire une idée de la subtilité de ces distinctions. Cette femme-là cirait un cheveu en trois dans sa longueur, et elle ferait kino tous les docteurs d'Angélique et Séraphique. Au reste, à la manière dont elle parle, il est impossible de croire qu'elle ait même l'ombre d'un corps. C'est d'un immatériel, d'un vaporeux, d'un idéal à vous casser les bras. Et si Dieu sait de m'avait prévenu des allures de la bête, j'aurais assurément désespéré du succès de mes affaires, et je me serais tenu piteusement à l'écart. Comment diable aussi, lorsqu'une femme vous dit pendant 2 heures, de l'air le plus détaché du monde, que l'amour ne vit que de privations et de sacrifices et autres belles choses de ce genre, comment peut-on décemment espérer de lui persuader un jour de se mettre entre deux draps avec vous pour vous fomenter la complexion et voir si vous êtes fait l'un comme l'autre. Bref, nous nous sommes séparés, très amis, et nous félicitons réciproquement de l'élévation et de la pureté de nos sentiments. La conversation avec l'autre a été, comme tu l'imagines, d'un genre tout à fait opposé. Nous avons ri autant que parlé. Nous nous sommes moqués, et fort spirituellement, de toutes les femmes qui étaient là. Quand je dis « nous nous sommes moqués, et fort spirituellement », je me trompe, je devrais dire « elle s'est moquée ». Un homme ne se moque jamais bien d'une femme. Moi, j'écoutais et j'approuvais, car il est impossible de crayonner un trait plus vif et de le colorer plus ardemment. C'est la plus curieuse galerie de caricatures que j'ai jamais vue. Malgré l'exagération, on sentait la vérité au-dessous. De C avait bien raison. La mission de cette femme est de désenchanter les poètes. Il y a autour d'elle une atmosphère de prose dans laquelle une idée poétique ne peut vivre. Elle est charmante et pétillante d'esprit, et cependant, à côté d'elle, on ne pense qu'à des choses ignobles et vulgaires. Tout en lui parlant, je me sentais une foule d'envies incongrues et impraticables dans le lieu où je me trouvais, comme de me faire apporter du vin et de me saouler, de la camper sur un de mes genoux et de lui baiser la gorge, de relever le bord de sa jupe et de voir si sa jarretière était au-dessus ou au-dessous du genou, de chanter à tue-tête un refrain ordurier, de fumer une pipe ou de casser les carreaux, que sais-je. Toute la partie animale, toute la brute se soulevait en moi. J'aurais très volontiers craché sur l'Iliade d'Homère, et je me serais mis à genoux devant un jambon. Je comprends avant parfaitement aujourd'hui l'allégorie des compagnons d'Ulysse, changée en pourceau par Circé. Circé était probablement quelque aigriarde comme ma petite femme en rose. Chose honteuse à dire, j'éprouvais un grand délice à me sentir gagné par l'abrutissement. Je ne m'y opposais pas. J'y aidais de toutes mes forces, tant la corruption est naturelle à l'homme et tant il y a de boue dans l'argile dont on est pétri. Cependant, j'eus une minute peur de cette gangrène qui me gagnait, et je voulus quitter la corruptrice, mais le parquet semblait avoir monté jusqu'à mes genoux, et j'étais comme enchâssé à ma place. À la fin, je pris sur moi de la quitter, et la soirée étant fort avancée, je m'en retournai chez moi très perplexe, très troublé, et ne sachant trop ce que je devais faire. J'hésitais entre la prude et la galante. Je trouvais de la volupté dans l'une et du piquant dans l'autre. Et après un examen de conscience très détaillé et très approfondi, je m'aperçus non que je les aimais toutes les deux, mais que je les désirais toutes les deux, l'une autant que l'autre, avec assez de vivacité pour en prendre de la rêverie et de la préoccupation. Selon toute apparence, ô mon ami, j'aurais une de ces deux femmes. Je les aurais peut-être toutes les deux, et pourtant, je t'avoue que leur possession ne me satisfait qu'à moitié. Ce n'est pas qu'elles ne soient fort jolies, mais à leur vue, rien n'a crié dans moi, rien n'a palpité, rien n'a dit « c'est elle ». Je ne les ai pas reconnues. Cependant, je ne crois pas que je rencontrerai beaucoup mieux du côté de la naissance et de la beauté, et de ces me conseille de m'en tenir là. Assurément, je le ferai, et l'une ou l'autre sera ma maîtresse, ou le diable m'emportera avant qu'il soit bien longtemps. Mais au fond de mon cœur, une secrète voix me reproche de mentir à mon amour, et de m'arrêter ainsi au premier sourire d'une femme que je n'aime point, au lieu de chercher infatigablement à travers le monde, dans les cloîtres et dans les mauvais lieux, dans les palais et dans les auberges, celle qui a été faite pour moi et que Dieu me destine, princesse ou servante, religieuse ou femme galante. Puis je me dis que je me fais des chimères, qu'il est bien égal après tout que je couche avec cette femme ou avec une autre, que la terre n'en déviera pas d'une ligne dans sa marche et que les quatre saisons n'intervertiront pas leur ordre pour cela, que rien au monde n'est plus indifférent et que je suis bien bon de me tourmenter de pareilles billevesées. Voilà ce que je me dis. Mais j'ai beau dire, je n'en suis ni plus tranquille ni plus résolu. Cela tient peut-être à ce que je vis beaucoup avec moi-même, et que les plus petits détails dans une vie aussi monotone que la mienne prennent une trop grande importance. Je m'écoute trop vivre et penser, j'entends le battement de mes artères, les pulsations de mon cœur. Je dégage à force d'attention mes idées les plus insaisissables de la vapeur trouble où elles flottaient, et je leur donne un corps. Si j'agissais davantage, je n'apercevrais pas toutes ces petites choses, et je n'aurais pas le temps de regarder mon âme au microscope, comme je le fais toute la journée. Le bruit de l'action ferait envoler cet essaim de pensées oisives qui voltigent dans ma tête et m'étourdissent du bourdonnement de leurs ailes. Au lieu de poursuivre des fantômes, je me collèterais avec des réalités. Je ne demanderais aux femmes que ce qu'elles peuvent donner, du plaisir. Je ne chercherais pas à embrasser je ne sais quelle fantastique idéalité parée de nuageuse perfection. Cette tension acharnée de l'œil de mon âme vers un objet invisible m'a faussé la vue. Je ne sais pas voir ce qui est, à force d'avoir regardé ce qui n'est pas, et mon œil si subtil pour l'idéal est tout à fait myope dans la réalité. Ainsi j'ai connu des femmes que tout le monde assure d'être ravissantes et qui ne me paraissent rien moins que cela. J'ai beaucoup admiré des peintures généralement jugées mauvaises, et des vers bizarres ou inintelligibles m'ont fait plus de plaisir que les plus galantes productions. Je ne serais pas étonné qu'après avoir tant adressé de soupirs à la lune et regardé les étoiles entre les deux yeux, après avoir tant fait d'élégies et d'apostrophes sentimentales, je ne devienne amoureux de quelques filles de joie bien ignobles ou de quelques femmes laides et vieilles. Ce serait une belle chute. La réalité se vengera peut-être ainsi du peu de soin que j'ai mis à lui faire la cour. Cela ne serait-il pas bien fait si j'allais m'éprendre d'une belle passion romanesque pour quelque mari torne ou quelque abominable gaupe? Ne vois-tu jouant de la guitare sous la fenêtre d'une cuisine et supplémenté par un marmiton portant le roquet d'une vieille douairière, crachant sa dernière dent? Peut-être aussi que, ne trouvant rien dans ce monde qui soit digne de mon amour, je finirai par m'y adorer moi-même comme feu narcissiste d'égoïste mémoire. Pour me garantir d'un aussi grand malheur, je me regarde dans tous les miroirs et dans tous les ruisseaux que je rencontre. Au vrai, à force de rêverie et d'abstraction, j'ai une peur énorme de tomber dans le monstrueux et le hors-nature. Cela est sérieux, et il y faut prendre garde. Ah. Adieu, mon ami, je vais de ce pas chez la dame Rose, de peur de me laisser aller à mes contemplations habituelles. Je ne pense pas que nous nous occupions beaucoup de l'entéléchie, et je crois que si nous faisons quelque chose, ce ne sera pas à coup sûr du spiritualisme, bien que la créature soit fort spirituelle. Je roule soigneusement et serre dans un tiroir le patron de ma maîtresse idéale pour ne pas l'essayer sur celle-ci. Je veux jouir tranquillement des beautés et des mérites qu'elle a. Je veux la laisser habiller d'une robe à sa taille, sans tâcher de lui adapter le vêtement que j'ai taillé d'avance et à tout événement pour la dame de mes pensées. Ce sont de fort sages résolutions. Je ne sais pas si je les tiendrai. Encore une fois, adieu.